Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur de ce que, eh bien, il soit parmi nous par son Esprit Saint et de ce qu'il ait cette possibilité de parler au travers des dons spirituels. Vous savez, il y a des églises où on n'entend plus la voix de Dieu. Et nous voudrions qu'elle soit constamment parmi nous et qu'elle puisse nous montrer, eh bien, justement, le chemin, la voie à suivre. Encore faut-il que nous puissions entendre cette voix et surtout la mettre en pratique. Je salue à nouveau ceux et celles que je n'ai pas saluées au début. Très heureux de vous voir tous. C'est une joie de pouvoir venir dans la maison de notre Père. Merci Seigneur encore pour ce temps aussi de louange, d'adoration que nous avons pu vivre encore ce matin. Et là aussi dans ce domaine, on veut plus que jamais exceller. On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Et on va continuer un petit peu sur notre thème. La dernière fois, on avait bien vu ensemble qu'il était important, c'est Jésus lui-même qui nous l'a dit, d'entrer dans notre chambre, de fermer notre porte. Et là, dans le lieu secret, dans cette intimité avec Dieu, Dieu lui-même allait nous récompenser, Dieu allait nous bénir. Et comme j'ai déjà dit donc dimanche dernier, nous n'aurons jamais de cesse, écoutez-moi bien, nous n'aurons jamais de cesse de réaliser l'importance, réaliser la place de choix, la prééminence qu'a la prière dans chacune de nos vies chrétiennes. La prière, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une option dans la vie du croyant. Parce que cette même prière est vitale pour nous, c'est essentiel. C'est entre autres ce moyen par lequel nous pouvons entrer en connexion avec le Seigneur et recevoir toutes les grâces, toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Comme quelqu'un l'a dit un jour, la prière c'est quoi? C'est la respiration de l'âme. Ce matin vous respirez, même derrière votre masque, vous n'allez pas me faire croire, vous respirez. Eh oui. Eh bien, de la même manière, sur le plan spirituel, eh bien, plus je prie, eh bien, plus mon âme eh bien, va être ventilée, mon âme eh bien, va être gonflée du vent, du souffle du Saint-Esprit, afin d'aller plus loin. Et nous le savons tous, la force du croyant, la force d'une église, eh bien, réside dans sa capacité à prier. Et je vous le dis d'avance, j'ouvre et je ferme très rapidement la parenthèse. Pour le mois d'octobre, nous aurons mettrons l'accent sur la prière et ces temps de mardi, nous allons chercher Dieu, nous allons fléchir les genoux plus que jamais. C'est un temps, non pas, on a besoin de se distraire, mais c'est vraiment un temps où on a besoin de chercher Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs, hein ? Vous m'encouragez ce matin et si vous êtes d'accord avec moi, vous dites amen. Parce que amen veut dire oui, ainsi soit-il. Alors je voulais ce matin qu'on puisse continuer sur ce thème de la prière et ensemble répondre à une question qui est venue à mon esprit et elle est très simple. Et quelle est-elle ? Eh bien cette question c'est comment notre prière peut-elle être efficace ? Autrement dit, comment notre prière peut-elle produire le résultat que l'on attend d'elle au final ? Et quel est ce résultat ? Être exaucé. Car si nous prions, c'est ni plus ni moins pour recevoir un écho favorable de la part de Dieu. C'est pour en retour être agréé, être exaucé de par Dieu. Alors comment être sûr que notre prière sera écoutée et exaucée par notre Dieu ? Elle est intéressante cette prière ou non ? Et je voudrais ensemble que nous puissions y répondre. Et j'ai pour cela choisi pour vous quatre réponses qu'on va retrouver essentiellement dans l'épître de Jacques. Alors prenez vos Bibles avec moi et nous allons donc découvrir ces quatre réponses à cette question que je répète, comment notre prière peut-elle être efficace ? Et je crois que si nous mettons en pratique ces quatre réponses, à coup sûr, nous verrons nos prières être exaucées devant notre Père. Commençons. Alors comment notre prière peut-elle être efficace ? Premièrement, lisons Jacques chapitre 5 et le verset 16. Regardons ensemble, je vous laisse le temps de chercher dans vos Bibles. Jacques chapitre 5, le verset 16. Et nous allons nous arrêter essentiellement sur la deuxième partie de ce verset, mais on va lire tout le verset parce que tout le verset est capable de nous parler ce matin. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il y a déjà là pour nous une première réponse. Notre prière sera ce matin et les jours à venir efficace si et seulement si nous nous reconnaissons comme justes aux yeux de Dieu Et deuxièmement, si nous pratiquons la justice de Dieu. Plus exactement, si nous sommes reconnus justes aux yeux de Dieu et si nous pratiquons la justice de Dieu. Vous l'avez bien lu avec moi dans ce verset 16 de ce chapitre 5. Ce n'est pas tant la ferveur de la prière qui va rendre cette même prière efficace. On le voit bien, c'est la personne qui prie Dieu qui permet que cette même prière soit efficace aux yeux de Dieu. Et en l'occurrence, l'apôtre Jacques là explique que le juste, quand il exprime une prière, bien sûr une prière pleine de ferveur devant Dieu, eh bien cette même prière, elle est efficace. Faut-il rappeler ce qu'est le juste aux yeux de Dieu ? Le juste, c'est celui ou celle, eh bien, qui s'est repenti de ses péchés. C'est celui qui, par la foi, un jour a accepté l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Le juste, c'est celui qui a été justifié, eh bien, de ses nombreux péchés et rendu juste aux yeux de Dieu par ce que Christ a accompli, eh bien, sur le bois de la croix. Le juste, c'est aussi celui qui honore Dieu, qui respecte Dieu dans sa vie de chaque jour. Le juste, c'est enfin celui qui pratique la justice de Dieu. Pas sa justice, mais la justice de Dieu, celle que nous retrouvons eh bien, dans la parole de Dieu. Autrement dit, eh bien, et retenons cela, notre prière sera efficace et donc exaucée par Dieu si et seulement si eh bien, nous nous appliquons à pratiquer la justice de Dieu et si et seulement si, à l'inverse, nous rejetons toute forme d'injustice. Vous savez comment on reconnaît un enfant de Dieu ? Ben dans le fait qu'il, tout simplement, il met en pratique ce que Dieu a reconnu comme juste, ce que Dieu nous a révélé comme juste au travers de sa parole. Il y a d'ailleurs l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 29, 1 Jean chapitre 2, le verset 29, « Si vous savez qu'il est juste, parlant du Seigneur, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Un enfant de Dieu, on le reconnaît parce qu'il se plaît à marcher sous la voie droite hein, qui est inscrite hein, bien, au travers de la parole de Dieu. Alors, c'est important de pouvoir pratiquer cette justice et en même temps, c'est important que nous puissions rejeter de nos vies eh bien, tout ce qui peut être des injustices. Et j'aimerais eh bien, peut-être dans un premier temps vous donner pêle-mêle voilà, 3-4 exemples eh bien, d'injustices qui peuvent rendre inopérante notre prière. Des injustices qui pourraient se trouver eh bien, même dans le cœur eh bien, des chrétiens, peut-être même dans le cœur de quelqu'un eh bien, ce matin ou quelqu'une. Je prends en premier exemple les mauvaises pensées. Est-ce que si ce matin je viens avec des mauvaises pensées, est-ce que ma prière peut-elle être efficace ? On a la réponse. Psaume chapitre 66, le verset 18, s'il vous plaît, prenez des notes. J'y pensais tout à l'heure, vous savez la prédication ou la parole de Dieu quand elle est annoncée, elle est comme cette manne qui à l'époque était destiné au peuple hébreu dans le désert. Et il est précisé que chacun avait la responsabilité de pouvoir ramasser cette manne. Et je vous encourage à pouvoir noter tous ces passages. Vous savez, il n'y a que Dieu qui sait combien de temps je peux passer et quels sont les combats eh bien, qui sont les miens pour préparer ces choses. Parce que croyez-moi, l'ennemi veut nous empêcher de connaître les clés qui vont nous permettre de réussir. Ce texte, il est clair. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité ? L'iniquité, c'est ni plus ni moins le contraire de l'équité. Et qu'est-ce que l'équité ? Si ce n'est ce qui est juste. Donc l'iniquité, c'est tout ce qui est injuste. Si j'avais conçu de l'injustice dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. L'injustice, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est injuste, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, toutes ces choses peuvent être des points bloquants dans eh bien, notre prière quand on désire qu'elle soit efficace. Et c'est pour ça que, eh bien, on voit par exemple l'exemple de ce Simon, vous savez, ce fameux Simon qui était là, habitant d'un village de Samarie. Et rappelez-vous, quand Philippe l'évangéliste est venu leur annoncer l'évangile eh bien, à tout ce village, eh bien, tous les habitants se sont tournés vers Dieu. Et Simon, qui était d'ailleurs anciennement magicien, lui aussi a donné son cœur au Seigneur. Il s'est même fait baptiser. Et cet homme, à un moment donné, avait un désir, c'est de pouvoir acquérir le baptême du Saint-Esprit. Mais voilà, on peut le lire dans Actes chapitre 8, eh bien, son cœur n'était pas droit devant Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, eh bien, lui a signifié les choses. Il lui a dit d'ailleurs, Actes chapitre 8 et le verset 21 à 23, si vous êtes rapide, prenez-le, sinon vous l'avez derrière mon dos. Actes chapitre 8, verset 21 à 23, « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Il dit au verset 22, « Repens-toi donc de ta méchanceté, prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité, autrement dit, dans les liens de l'injustice. » Comment peut-il se faire qu'un chrétien, parce que c'était un chrétien, c'était un croyant, il avait donné son cœur à Jésus. Pourtant, il était à côté de cela, dans les liens de l'injustice. Et il n'y avait que Dieu qui était capable de pouvoir révéler ce qui était dans le cœur de cet homme. Peut-être était-il sincère. Quoique, Dieu avait dévoilé ce jour-là qu'il y avait de l'injustice, il y avait un manque de droiture dans son cœur. Et la solution que le Seigneur lui a accordée au travers de la bouche des apôtres, c'est de pouvoir se repentir. Et c'est peut-être la réponse que Dieu veut te donner ce matin. Mon frère, ma sœur, repens-toi. Ami, peut-être toi qui viendrais pour les premières fois, repens-toi. Si le Saint-Esprit trouve un chemin favorable dans ton cœur et te convainc d'une injustice dans ton cœur, repens-toi. Vous savez, on pense que la repentance est contre nous. La repentance est une bénédiction, une grâce, un moyen pour nous pour pouvoir se reconnecter avec Dieu. Et je prie Dieu, j'espère que cet homme ait eu l'occasion réellement de se repentir pour voir la grâce de Dieu tout à nouveau se répandre sur sa vie. Voilà un premier exemple, les mauvaises pensées, mais j'aurais pu rajouter la rébellion vis-à-vis des commandements de Dieu. Dieu t'a parlé une fois, deux fois, trois fois, te disant peut-être même les mêmes choses, mais tu résistes. Et tu uses de rébellion. Et tu oses même prier. Voilà, voici ce que la Bible dit. Proverbes chapitre 28 et le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je bénis le Seigneur. Ça paraît dur. Mais le Seigneur, pour nous éclairer, pour nous permettre d'aller plus loin, nous dit la vérité. Et c'est cette vérité même qui est capable de nous affranchir. Sa prière même est une abomination. Mon frère, ma sœur, si tu refuses d'obéir, de fléchir le genou à ce que Dieu te demande, même ta prière devient répugnante. C'est le cas de le dire, répugnante aux oreilles de Dieu. Mais le Seigneur veut écouter ta prière, veut la recevoir pleinement. C'est pour cela, obéis tout simplement. Fléchis les genoux et accepte ce que Dieu te demande de faire ou ce qui t'encourage à pouvoir accomplir. La rébellion vis-à-vis des commandements de Dieu est aussi un obstacle qui rend quelque part nos prières inopérantes. Il y a aussi un autre exemple que j'ai récupéré aussi pour nous ce matin, ce sont les conflits familiaux. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 7, je vois il y a des personnes qui prennent note et vous faites bien. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 7. Il nous est dit, et c'est étonnant ce passage, il dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que, et c'est ça qui nous intéresse, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Je ne vais pas faire un sondage ce matin pour savoir s'il y a des maris dans la salle. Y a-t-il des maris dans la salle ? Levez la main haut. Je crois que Dieu nous parle ce matin. Je dis nous parce que je suis aussi marié. Marié à ma chère et tendre épouse Ravaka. Et Dieu nous parle ce matin. Et il nous explique finalement une corrélation qu'il y a entre le fait de prier, peut-être pour un besoin, pour quelque chose, une attente, et puis notre relation avec notre conjoint. Vous savez, il n'y a que Dieu qui connaît la portée spirituelle de notre union avec notre conjoint. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, parle d'un mystère et rapporte l'union entre un homme et une femme avec la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Et vous comprenez qu'en retour, le diable s'évertue de briser ce que Dieu lui-même a institué, de briser cette vérité spirituelle, ce mystère profond. Et on a besoin, dans nos relations, et je m'adresse peut-être aux mariés, aux chefs de famille, vous savez, on parle de chef de famille, mais chef de famille, ça ne veut pas dire coq, hein. Est-ce qu'il y a des coqs dans l'auditoire ? On n'a pas besoin d'être des coqs, mais plus peut-être des colombes, auprès de nos épouses, et savoir les respecter, savoir les honorer, et leur apporter toute la délicatesse dont elles ont besoin, afin qu'en retour, lorsqu'on vient devant Dieu, nos prières soient pleinement efficaces. Nous comprenons ces choses, frères et sœurs ? On comprend ou pas? Ah. Un autre exemple, un dernier. Encore là, une injustice qui rend inopérante nos prières, c'est le non-pardon. Et je ne pouvais pas ne pas parler eh bien, de ce point-là. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Je vous laisse le temps de chercher cette déclaration du Seigneur Jésus lui-même. Et il dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça, ce n'est pas ma justice, ce n'est pas ta justice, c'est la justice de Dieu. Et cette justice nous rappelle que si nous pardonnons au prochain son offense à notre égard, Dieu à son tour agréera à bien pleinement notre prière, peut-être même de repentance, et nous recevra favorablement. Dieu sera toujours prêt à pardonner notre offense à son égard. Mais si et seulement si, nous pardonnons à celui qui nous a offensés. Et je le dis, si des personnes sont dans cette situation ce matin et trouvent comme un point bloquant eh bien, dans leur vie spirituelle à cause d'un non-pardon, à cause eh bien, d'une amertume qui est là, venez à Jésus, il est prêt à vous aider. Venez à Jésus, ne restez pas dans cette situation, parce que c'est véritablement un point bloquant. Ta prière ne sera pas efficace. Tu auras beau prier, même sincèrement avec des larmes, mais ta prière ne sera pas efficace parce que eh bien, tu auras gardé de cette amertume. Mais j'ai envie de vous le dire en toute simplicité, si vous avez ce besoin, ce problème qui peut arriver à n'importe qui, venez nous voir. Je dis nous. Je pense à mon frère Richard, qui est ancien, mon frère Sylvain Bernard, qui est ancien, ainsi que moi-même. Venez nous voir dans toute discrétion, on va vous aider. On va vous aider. Et c'est exactement ce que nous avons lu eh bien, tout à l'heure en introduction dans Jacques chapitre 5, verset 16. On retrouve ce texte, Jacques chapitre 5, verset 16, quand il est dit, je ne sais pas si on peut l'avoir tout à nouveau, voilà, confessez donc vos péchés les uns les autres. C'est ça. Dans un entretien, eh bien, dire, mais voilà, j'ai tel et tel problème. Voilà ma faute, voilà ce qui m'attriste, voilà ce qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur. Eh bien voilà, j'ai cette rancune, j'ai cette amertume. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et bien sûr qu'on va prier avec vous. Et bien sûr qu'on veut votre guérison, parce qu'il n'y a pas que des guérisons physiques. Quelquefois, il y a des guérisons spirituelles. Il y a des chrétiens malades. Il y a des chrétiens malades. Et ils sont là, ils sont sincères avec Dieu, mais ils sont malades. Malade parce qu'il y a de l'amertume, malade parce qu'il y a de l'injustice, malade eh bien, parce qu'ils ont été blessés, malade. Et ils ont besoin d'être guéris par celui-là seul qui est notre médecin, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous comprenons ces choses. Et si on ne laisse pas le Seigneur Jésus nous toucher, eh bien, nous verrons cette maladie eh bien, rongée comme la gangrène. J'utilise des mots très forts pour que nous puissions ce matin eh bien, réagir comme il se doit. Comment notre prière peut-elle être efficace ? En étant juste aux yeux de Dieu, mais aussi en, surtout en pratiquant la justice de Dieu. J'arrête avec ce premier point. Il y a un deuxième point que je voudrais placer devant vos yeux, une deuxième réponse. Eh bien, notre prière sera efficace si nous l'accompagnons de la foi. J'ai envie de dire, la palisse n'aurait pas dit mieux. Il ne peut pas exister une véritable prière qui soit efficace devant Dieu sans qu'on puisse y ajouter eh bien, la foi. Et pour ce faire, on revient sur l'épître de Jacques. Et nous trouvons dans Jacques chapitre 1, du verset 5 à 7, cette autre réponse que le Saint-Esprit nous laisse ce matin. Je vous laisse aussi le temps de chercher cette deuxième réponse. Jacques chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 7 et même verset 8, si on peut. Il nous est dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Mais verset 6 nous dit, « Mais qu'il la demande avec... » Alors aidez-moi, j'ai un problème de presbytie, aidez-moi. « Mais qu'il la demande avec... » Et il rajoute, « Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, verset 8, je ne sais pas si on peut l'avoir sur l'écran, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La foi, on le sait, est certainement la condition principale et même indispensable pour prier Dieu avec efficacité. Mais j'ai envie de dire aussi à l'inverse, eh bien, le doute, tout comme l'incrédulité, sont ensemble eh bien, des obstacles majeurs à l'exaucement, à la prière. Et c'est notre ami, l'apôtre Jacques, qui explique que celui qui doute, eh bien, il est semblable au flot de la mer qui est agité eh bien, à cause du vent par-ci, par-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé une mer en tempête, même le lac qui est à côté, plutôt l'étang qui est à côté, quand c'est agité, quand le vent souffle, vous voyez aux surfaces de l'eau, eh bien, ces vagues, ces flots qui montent, qui descendent, qui ondulent, il y a de l'agitation, un coup en haut, un coup en bas. C'est pareil pour le chrétien, la chrétienne qui doute. Il est comme les flots de la mer, voilà ce qu'explique l'épître Jacques. Un coup, il est en haut, et quand il est en haut, il dit « Seigneur, je crois !» Et puis quand il est en bas de la vague, « Seigneur, je ne sais plus trop. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Seigneur, j'ai quelques doutes. Je suis quelque peu perplexe. » Tout cela nous parle d'instabilité, d'inconstance et peut-être aussi de manque de connaissance de notre Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on ne laisse pas le doute venir eh bien, troubler notre assurance que Dieu, tôt ou tard, eh bien, sera nous donner à être plus que vainqueur. Par définition, quand on regarde le doute, c'est quoi ? Le doute, c'est une incertitude concernant quelque chose. Des synonymes du mot doute, c'est perplexité, hésitation. Et je nous pose cette question ce matin. Y a-t-il des doutes, de la perplexité, de l'hésitation concernant l'amour de Dieu à notre égard ? Y a-t-il de la perplexité concernant le fait que le Seigneur, eh bien, il écoute, il aime, il se plaît à écouter les prières et il se plaît aussi à les exaucer ? Y a-t-il dans nos cœurs de la perplexité eh bien, concernant la toute-puissance de Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu ? Soyons fermes et inébranlables dans celui en qui nous avons choisi de placer toute notre confiance. Un jour, le Seigneur m'a dit à haute voix, « Joël, tu veux un miracle ?» Parce qu'une fois, je l'avais prié et je voulais une prière efficace. Vous savez, les prières efficaces, ce sont les plus courtes qu'on l'on fait. Quelquefois, on rallonge les prières pour se convaincre. C'est pas vrai ? Ou c'est à moi seulement que ça s'est arrivé ? D'ailleurs, il le dit dans le Matthieu chapitre 5. Priez pas longuement comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Les prières les plus efficaces, c'est celles qui étaient quelquefois les plus courtes, mais les plus profondes, qui étaient empreintes de foi. Et je dis, Seigneur, pour une circonstance particulière, Seigneur, je te demande, toi, le Dieu des miracles, de faire un miracle. Dieu m'a parlé, il m'a pris au mot. Il est venu dans ma chambre, dans le secret de ma chambre, parce que je m'étais enfermé dans ma chambre universitaire. Et le Seigneur m'a dit, Joël, tu veux ce miracle ? Et j'étais surpris. Vous savez, quand Dieu parle, on sait. Hein, n'allez pas me dire, mais t'es sûr que c'était Dieu qui... Oui, c'est Dieu qui m'a parlé. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je veux ce miracle. Eh bien, écoute, crois jusqu'au bout, ne doute pas, ne sois pas incrédule. Et mon combat, et je crois que notre combat lorsqu'on prie, c'est de pouvoir eh bien, constamment refouler toute suggestion que pourrait nous apporter le doute et être ferme eh bien, et reposer, appuyer sur eh bien, les promesses que Dieu nous laisse. Et d'ailleurs, l'une des promesses, je vous en cite une parmi tant d'autres, Matthieu chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, qu'est-ce qui va se passer ? Vous le recevrez. » Et je vous le mets dans le mille. Au fait, eh bien, finalement, pour ma fameuse prière que j'avais formulée à Dieu, Dieu m'a accordé le miracle. Parce que c'était véritablement un miracle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Eh bien, un jour, je vous raconterai cette expérience extraordinaire. Dieu m'a pris au mot. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'à ma prière, j'ai rajouté eh bien, cette dimension de la foi. Lorsque nous prions, ayons foi en Dieu. Et il s'agit pour nous aussi en même temps de repousser avec virulence le doute qui voudrait nous dominer. Alors, notre prière sera efficace. Notre prière sera entendue. Notre prière sera agréée. Et nous ne tarderons pas de voir eh bien, l'exaucement venir réjouir notre cœur. Une troisième réponse à notre question que nous ne voudrions pas perdre eh bien, de vue. Comment notre prière peut-elle être efficace ? Troisième réponse, notre prière sera efficace si eh bien, nous nous approchons de Dieu d'une manière humble. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre lorsqu'on parle de la prière. On parle bien sûr de la foi, on parle de plein d'autres choses. Mais je crois que Il est bon que lorsque nous approchons de Dieu, nous puissions le faire d'une manière humble. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, frères et sœurs? Il est bon, eh bien, que nous puissions réaliser non seulement notre petitesse, mais en même temps sa grandeur. Et j'aime à le dire, le Seigneur, ce n'est pas notre copain. On a besoin au contraire de réaliser que ce Dieu qui est si grand a bien daigné dans sa miséricorde, dans sa souveraineté aussi, a bien désiré nous appeler ses enfants. Quel privilège, quelle grâce. Et on a besoin de venir en tout tremblant, avec crainte, avec révérence, avec respect. Il est bon, eh bien, qu'on l'on puisse réaliser, eh bien, aussi que nous qui étions pécheurs sauvés par grâce, eh bien, Dieu permet que nous puissions nous approcher de lui, lui, le Dieu qui est trois fois saint. Combien de fois nous nous sommes présentés à Dieu en manquant d'humilité. On est arrivé devant lui comme en terrain conquis. On est venu devant lui avec plein de transactions, comme si on avait affaire à un commerçant. On est là avec nos demandes, etc. On ne réalise pas la présence de Dieu. Et on a besoin, d'une manière humble, de nous approcher et bien de ce grand Dieu. Il est si grand, il est si bon. Un peu comme, vous savez, cette parabole que Jésus a racontée. Il a raconté une fois qu'il y avait deux hommes qui sont venus au temple pour prier. C'était une réunion de prière, comme nous on a l'habitude le mardi soir. Et l'un, pour être plus précis, un pharisien est venu et il a commencé sa prière. « Oh Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme les hommes, comme les autres des hommes, je fais ceci, je. » Et cet homme, on voit bien qu'il s'approche et il rentre dans la prière, non pas avec un cœur humble. Il vient avec l'arrogance de la chair, il vient énumérer eh bien, toutes ses œuvres. Eh bien, et je crois que ce qu'il a énuméré, c'est ce qu'il fait véritablement. Mais au final, il n'a pas été exaucé parce que Dieu a rejeté eh bien, un tel état d'esprit. Par contre, Jésus raconte dans cette même parabole qu'il y a un autre qui est venu, cette fois-ci un publicain, et dès qu'il est rentré, il se frappe la poitrine et il commence sa prière, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. » On sent l'humilité au travers de sa prière. Il est humble, il ne revendique rien. Quelquefois, il y en a, il lutte presque contre Dieu, il pense que c'est peut-être les décibels, peut-être la beauté. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas même pas la longueur, je l'ai dit tout à l'heure. C'est oui, cette foi, mais aussi cette humilité. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Et ce publicain, finalement, eh bien, quand il s'est approché de Dieu, eh bien, Dieu lui a permis, lui a donné eh bien, ce qu'il attendait. Eh bien donc de sa part, c'est-à-dire Dieu eh bien, a posé sa main et lui a fait grâce et a pardonné son péché. Vous savez, il y a un texte eh bien, qui en dit long sur ce que eh bien, Dieu attend de chacun d'entre nous lorsque nous approchons de lui. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Ésaïe chapitre 57 et le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Et lui-même parle. Il dit, j'habite dans les lieux élevés. J'habite dans la sainteté. Mais dans sa souveraineté, il rajoute, je suis avec l'homme contrit et humilié. Et je suis avec lui afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Oui, ce grand Dieu qui tient l'univers entre ses mains, ce grand Dieu qui a créé tout ce qui nous entoure, qui a créé la pluie, qui a créé eh bien, chacun des êtres humains, 7 milliards aujourd'hui. Ce même Dieu, il accepte d'être avec l'homme, la femme, qui est contrit et humilié. D'où l'importance, et c'est une clé que Dieu nous donne, lorsque nous approchons de Dieu, nous puissions eh bien, nous approcher avec une telle révérence, avec un cœur humble. La prière est comme une invitation à nous soumettre humblement à la volonté souveraine de Dieu. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Lorsque je prie, je ne viens pas pour troquer, pour transactionner ou pour tenter de fléchir la volonté de Dieu à la mienne. Non. Je viens d'une manière humble eh bien pour chercher eh bien la volonté de notre Père céleste. Et on l'a chanté, je ne sais pas si vous avez fait attention. Je viens dans ta présence pour rechercher ta volonté. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui, dans son modèle de prière, vous savez qu'il nous a laissé un modèle de prière, je l'ai rappelé dimanche dernier, je vous le rappelle, il nous a laissé un modèle de prière. Il dit, voilà, quand vous priez, autrement dit, je veux retrouver dans vos prières ceci ou cela. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint, mais que ta volonté seule soit faite. Et Jésus ne l'a pas seulement dit, lui-même l'a expérimenté, vous savez, dans son ministère terrestre, à un moment donné, très difficile, de son ministère terrestre, lorsqu'il était dans ce fameux jardin de Gethsémané, lui-même a formulé cette prière. Il a dit, « Oh, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous sentez l'humilité ? Ce n'est pas nous qui commandons, c'est Dieu qui est souverain. Et quand on est chrétien, on ne veut pas faire notre volonté, mais on veut chercher à faire celle de notre Père céleste. Lorsque nous prions Dieu avec un cœur humble, Dieu nous bénira toujours. Dieu nous fera grâce. J'aime ce passage, vous le connaissez aussi, de Chroniques chapitre 7, verset 14. De Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai même son pays. Et remarquez la place des mots. La place des mots qui n'est pas anodin, justement, dans cette phrase. Par le Saint-Esprit, eh bien, il nous est dit d'abord, si mon peuple s'humilie. Premièrement, l'humilité. Après la prière. Après le fait de chercher la face de Dieu. Et puis enfin, le fait de se détourner de ses mauvaises voies. Et je me dis, si eh bien, nous ne comprenons pas la priorité des priorités, c'est-à-dire d'abord de nous humilier devant ce si grand Dieu eh bien, qui nous a tellement aimés, eh bien, je me demande si on peut pleinement en retour être efficace au niveau de la prière. Est-ce qu'on peut être efficace pour chercher eh bien, la face de Dieu ? On ne peut pas chercher la face de Dieu eh bien, d'une manière orgueilleuse. Oh, je vais chercher Dieu et ça va déménager. Hein. S'humilier d'abord. Et quand je m'humilie, je vais réellement savoir prier. Quand je m'humilie, je vais réellement savoir chercher la face de Dieu. Et quand je m'humilie, eh bien, je saurai réellement savoir me détourner de mes mauvaises voies. Sans réelle humilité, sommes-nous réellement capables de prier, chercher Dieu et se détourner du mal ? Ne faites pas attention à la sonnerie. Écoutez ce que Dieu est en train de nous dire là. Lorsqu'avec un cœur humble, nous cherchons Dieu à travers la prière, Dieu se révèle à nous. Et alors que je préparais ce message, je pensais à ce qu'a été l'expérience de notre ami Daniel, un homme qui a reçu des visions et des révélations donc concernant l'avenir. Et il nous a dit eh bien, que Daniel, à un moment donné, disposa son cœur à chercher Dieu. Et il le fit à travers la prière. Il a décidé de jeûner pendant plusieurs semaines auprès d'un fleuve là. Et cet homme a cherché Dieu. Mais surtout, cet homme s'est humilié. Regardez ce qu'il est dit de lui, Daniel chapitre 10 et le verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Dieu qui répond à cet homme, qui après un certain temps de prière, Dieu va lui dire, Daniel chapitre 10, verset 12, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, mais où tu as eu aussi à cœur de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, autrement dit ta prière, ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Vous savez, lorsqu'on prie, ce qu'on souhaite, c'est que Dieu puisse venir et agréer notre prière. Et là, Dieu nous rappelle cette clé, ces clés qui sont importantes. Premièrement, il a eu à cœur de comprendre. Seigneur, il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que... Seigneur, je veux vraiment comprendre peut-être où se trouve peut-être l'obstacle dans ma vie, où se trouve peut-être ce qui a ôté de ma vie. Où tu as eu à cœur de comprendre. Premier jour où tu as eu à cœur, mais aussi de t'humilier. Et quand on s'humilie réellement, quand on cherche la face de Dieu, et quand on arrête de pointer le doigt sur les autres, mais quand on pointe le doigt sur son propre cœur et qu'on frappe notre poitrine disant « Seigneur, aie pitié de nous », là, le Seigneur, nous attirons son regard, littéralement. Et le Seigneur, il vient au-devant de nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs, et nous aide à les mettre en pratique. Je vous ai parlé de 4 réponses. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse prendre la 4e et dernière réponse ? On a vu qu'il était important de pouvoir pratiquer la justice de Dieu, et on peut le faire que si et seulement si nous sommes reconnus justes aux yeux de Dieu. On a vu qu'il est important, lorsque nous prions, évidemment, de pouvoir manifester la foi. Mais on vient de voir aussi qu'il est important que nous puissions nous approcher de Dieu d'une manière humble. Quand tu rentres dans ta chambre, quand tu fermes la porte derrière toi, arrête-toi et réfléchis à qui tu parles. Arrête-toi et réfléchis et réalise que ce Dieu d'amour, ce Dieu si grand est à ta portée, est tout près de toi, prosterne-toi de cœur et parle-lui. C'est vrai, tel un ami, tel un père. Mais fais-le d'une manière humble. Et je voudrais terminer avec une quatrième et dernière réponse. Notre prière sera efficace si nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous savez, nous pouvons prier au moins de deux manières différentes. La prière, la première manière, c'est le faire d'une manière charnelle. Et on revient à notre épître, l'épître de Jacques, Jacques chapitre 4 et le verset 3. Le Seigneur qui parle par la bouche de son serviteur, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Une autre façon de dire, vous priez mais votre prière n'est pas efficace. Pourquoi ? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire quoi ? Vos passions. Et on l'a vu dimanche dernier avec l'exemple de nos deux disciples, Jacques et Jean, qui à un moment donné, voyant qu'un autre village, un Samaritain, n'avait pas fait bon accueil au Seigneur Jésus, eh bien ces deux braves justiciers du Seigneur ont dit au Seigneur, ne veux-tu pas qu'on prie Dieu eh bien, pour que le feu du ciel descende et consume tous ses habitants qui ne t'ont pas fait bon accueil ? Et Jésus va leur répondre et va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils ont voulu formuler cette prière d'une manière charnelle, avec un esprit charnel. Mais, je l'ai dit, il y a une deuxième manière de prier, c'est celle qui consiste à prier sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et c'est justement cette façon de prier qui rendra notre prière efficace et qui produira du fruit. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, par exemple, va dire, ne le cherchez pas, mais prenez des notes, Éphésiens chapitre 6, verset 18, où il est dit, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et d'ailleurs, veillez à cela avec une entière persévérance et même priez pour tous les saints. Je pense à un moment donné à cet homme qui m'a dit, mais je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Mais regarde, tu as quand même un bon listing là. Priez pour tous les saints. Tu prends la liste de tous tes frères et sœurs et tu te mets à prier. Et tu verras que tu auras des sujets pour lesquels eh bien, il y a matière à prier. Mais je retiens le fait que l'apôtre Paul nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est Jude aussi qui, dans son épître, va dire, Jude, le verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » C'est ça, eh bien, prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est eh bien, inviter la troisième personne du Saint-Esprit à nous aider à pouvoir pleinement prier. Lorsque vous priez par le Saint-Esprit, votre prière a atteint sa cible. Tant dans le monde physique que dans le monde spirituel, des choses bougent, des choses se manifestent. Lorsqu'on prie eh bien, par le Saint-Esprit, évidemment, des choses se passent. Le Saint-Esprit eh bien, touche la personne pour laquelle on prie. D'ailleurs, quelquefois, eh bien, nous prions pour ces personnes et on les voit pleurer devant nous. On leur demande, mais pourquoi vous pleurez ? Elles-mêmes, elles ne savent pas. C'est l'action du Saint-Esprit. Parce que nous sommes laissés inspirer par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur est même capable, au travers de nos prières, de dévoiler eh bien, peut-être les points bloquants eh bien, dans la vie des gens. Leur donner une parole de connaissance, une parole de sagesse de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu, le surnaturel, eh bien, prend le relais et notre prière devient efficace. La prière n'est pas fatigante. La prière, elle devient incisive, elle est puissante. Et ces gens de prière-là, le diable redoute, vous le comprenez bien. D'où l'importance d'être constamment rempli du Saint-Esprit, afin d'être assisté par lui. Parce que ce n'est pas un scoop, mais je vous le dis, la prière, c'est aussi l'affaire du Saint-Esprit. L'acteur principal, c'est nous. Dieu a donné à l'homme le moyen de pouvoir converser, communier avec lui, parce que pour faire court, la prière, c'est quoi ? C'est, ni plus ni moins, le fait de parler à Dieu. Mais nous avons, pour être efficaces dans la prière, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'affaire du Saint-Esprit. D'ailleurs, la preuve, Romains chapitre 8, versets 26 à 27 nous dit, Romains chapitre 8, versets 26 à 27, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Mais l'Esprit, lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand le Saint-Esprit prend le relais, nous-mêmes, lorsque nous prions, nous nous écoutons parler. À qui c'est déjà arrivé ça ? Prier, puis à s'écouter même, parler, oh, C'est moi qui parle là ? Oh, c'est beau, oh, c'est puissant, c'est fort, c'est vrai, c'est juste. Quelquefois, le Saint-Esprit eh bien, prend le relais au travers de nos bouches et eh bien, se rend efficace eh bien, auprès du Père. Il est primordial de prier sous l'inspiration du Saint-Esprit afin que notre prière soit le reflet de la volonté de Dieu. Si je prie par l'Esprit de Dieu, je serai immanquablement dans la volonté de Dieu. Et c'est alors que s'accomplira ce qu'a dit l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, ne le cherchez pas, nous le lisons ensemble, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà donc quatre réponses que le Seigneur nous laisse et je veux eh bien terminer maintenant. Et c'est certain, Dieu désire que nous puissions avoir une vie de prière incisive, une vie de prière efficace qui est riche en exaucement. Et pour cela, il a voulu ce matin encore nous rappeler donc ces quatre points. Premièrement, si nous sommes justes aux yeux de Dieu, si nous pratiquons la justice de Dieu, alors notre prière sera efficace. Et si eh bien, nous prions avec la foi, eh bien, notre prière sera efficace et sera entendue de Dieu. Et si nous prions avec un cœur humble, eh bien, Dieu saura nous recevoir comme il se doit. Et enfin, si nous prions sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, eh bien là, tout à nouveau, notre prière sera efficace. Il y a, vous l'avez compris, certainement d'autres points qu'on aurait pu regarder ensemble. Mais déjà, j'ai envie de dire, si on arrive déjà à mettre ces quatre points en pratique, nous allons voir des changements dans notre vie de prière. Nous allons vivre eh bien, cette réalité de cette prière efficace, cette prière qui, à coup sûr, eh bien, arrive jusqu'aux oreilles du Seigneur et mieux encore, nous permet de vivre l'exaucement. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses ce matin et surtout que Dieu nous aide à pouvoir les vivre. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est la vérité. Et dans les temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui actuellement, plus que jamais, tu nous invites à vaquer à la prière, à prier sans cesse comme tu nous le demandes autre part. Et Seigneur, nous voudrions, tout comme les disciples, oui Seigneur, Père mon Dieu, t'inviter à nous enseigner à prier. C'est peut-être des choses, Seigneur, que Seigneur, certains ont déjà entendues, mais peut-être avons-nous besoin ce matin de les réentendre. Peut-être avons-nous besoin ce matin eh bien, de pouvoir les vivre comme il se doit, afin que, Seigneur, nos prières puissent être entendues d'en haut, afin que nos prières soient agréées par toi, afin que nos prières puissent être pleinement exaucées. Seigneur, répands sur nous un esprit de prière. Donne-nous à prier le matin, le midi, le soir. Donne-nous à prier sans cesse. Donne-nous, Seigneur Père, mon Dieu, à savoir, Seigneur Père, mon Dieu, dans nos lieux secrets, à savoir, Seigneur, nous approcher de toi d'un cœur humble. Nous approcher de toi avec foi. Tu l'as dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, rends-nous justes. Et c'est pour ça que chaque jour, on a besoin du sang précieux de Jésus. Pour que nous demeurons dans cette justice divine. Et que tu nous aides à mettre cette justice en pratique, jour après jour. Seigneur, aide peut-être ceux encore qui sont dans des amertumes ou dans des rancunes. Tous ceux, Seigneur, Père, qui sont dans des fraudes. Tous ceux qui sont, Seigneur, dans des injustices quelconques. Seigneur, je te prie de nous aider dans nos relations, même avec nos conjoints. Tu nous as parlé de ça aussi ce matin. Oh Dieu, donne-nous à considérer toutes ces choses, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières, mais qu'au contraire, ces prières soient efficaces. Et enfin, remplis-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous d'en haut. Rends-nous spirituels, afin que, Seigneur, mon Dieu, nous apportons devant toi des prières spirituelles, des prières vraies, des prières simples, des prières, Seigneur, profondes, des prières humbles devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'était pas prévu, mais gardons les têtes baissées, les yeux fermés. Et comme pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des obstacles que tu reconnais, mon frère, ma sœur, dans ta vie chrétienne, et qui finalement deviennent des obstacles dans ta vie de prière, des points bloquants. Et je voudrais, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, t'inviter à prendre cette victoire. Et à dire au Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Et si c'est ton cas, si tu as besoin de mettre de l'ordre, si tu as besoin tout à nouveau de pratiquer la justice de Dieu, et de vivre comme il se doit, comme Dieu te le demande, lève-toi à ta place, spontanément, lève-toi à ta place et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, je voudrais t'inviter à prendre une victoire ce matin. Ce n'était pas prévu, mais je veux faire ce que le Saint-Esprit me dit de faire. S'il y a des besoins, s'il y a une détresse, si tu es malade, je vais parler de chrétiens qui sont malades spirituellement parlant. Il faut juste le reconnaître et laisser le médecin, alléluia, de l'âme, le grand médecin, venir te toucher ce matin. Mais pour cela, il faut, alléluia, que tu t'approches de lui d'une manière humble. Et s'approcher d'une manière humble, c'est être vrai devant Dieu. C'est être vrai. Quand on est hypocrite, on est orgueilleux. Quand on est faux, on est orgueilleux. Mais quand on est humble, on s'approche de lui tel que nous sommes. Et si tu as besoin de te lever, lève-toi et Dieu te fera grâce. C'est ça la prière efficace. C'est ça, alléluia, cette démarche que Dieu attend de toi. Et je voudrais insister parce qu'il y a une personne qui doit se lever et qui a besoin de la grâce de Dieu ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Lève-toi maintenant et trouve cette victoire. Retrouve cette connexion avec Jésus. Et par le biais de la prière, il veut que tu retrouves cette connexion. Dans ta démarche, dans ta vie de chaque jour, tu vas aller de l'avant. Tu es sincère avec Dieu, Dieu le voit. Mais il t'a apporté des réponses ce matin. Il veut que tu les mettes en pratique. Et si tu veux cette victoire, lève-toi dans le nom de Jésus. Et le Seigneur te fera grâce. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées. Tu vois leurs besoins, c'est entre toi et eux, Seigneur. Seigneur, Père mon Dieu, je te prie encore de poser ta bonne main, de venir les secourir, de venir leur donner, Seigneur Père, victoire au nom de Jésus. Seigneur Père, face à tout obstacle, tout bouchon, tout point bloquant, Seigneur, dans leur vie, afin qu'ils puissent avancer avec toi. Parce qu'ils t'aiment, c'est pour ça qu'ils se sont levés, parce qu'ils sont assez humbles, Seigneur, pour reconnaître, Seigneur Père mon Dieu, l'efficacité de ta parole dans leur cœur. Seigneur, je t'en prie au nom de Jésus, pardonne, purifie, sanctifie, Seigneur, libère, débloque au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, les situations, Seigneur, dans la vie encore de mes frères et de mes sœurs, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu exauces cette prière. Tu es un grand Dieu et tu es bon. À toi toute la gloire. Merci Seigneur Père éternel. Parce que Seigneur, ils repartent, Seigneur Père, avec une victoire. Ils repartent avec l'exaucement à leur prière. Ils repartent avec ta grâce. Seigneur, tout comme ce publicain, Seigneur qui, Seigneur Père, ne perdait pas du temps. Seigneur a égrené, Seigneur Père mon Dieu, tout ce qu'il pouvait faire. Seigneur Père mon Dieu, pour toi. Mais Seigneur mon Dieu, gagner au contraire du temps comme ce publicain qui s'est approché de toi d'une manière humble. Merci, merci Seigneur. Merci pour ces situations qui sont maintenant débloquées dans le nom de Jésus. Amen, amen. Asseyez-vous, alléluia, tranquillement. Vous qui vous êtes levés, croyez-le, c'est une question de foi. Le Seigneur, il a entendu eh bien, votre requête et le Seigneur, il exauce dans le nom de Jésus-Christ.